La méditation de pleine conscience a le vent en poupe. Elle tire son origine du bouddhisme, revue à la sauce occidentale. La méditation de pleine conscience permettrait une attention juste, une présence attentive ou une conscience vigilante à ses propres pensées, actions et motivations. Il est aujourd'hui question de spiritualité laïque, c'est-à-dire sans lien avec une conception religieuse particulière. La méditation de pleine conscience voudrait s'inscrire dans cette perspective. Cette méditation de pleine conscience est-elle aussi neutre de toute doctrine et aussi laïque qu'elle se présente? Rapidement, voici deux définitions de la laïcité communément admises en France. La laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. Et selon le Larousse, la laïcité est le caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses et partisanes. Mais l'étymologie peut nous aider à un premier discernement. Il est intéressant d'observer que « méditer » vient du latin « medere », donner soin à, porter remède à. La racine « med » dans le domaine indo-européen a le sens, selon l'étymologiste, le grand spécialiste de l'étymologie benveniste, de dire de prendre autorité des mesures, de prendre avec autorité des mesures appropriées. D'où penser, réfléchir, juger, ordonner, et Medere a donné aussi le mot médication. La conscience. La conscience vient du latin conscientia, dérivé de consire, de cum, avec, et de sire, science. Par conséquent, c'est un savoir en commun. Mais avant le XVIIe siècle, la conscience était une valeur morale, de connaissance intuitive du bien et du mal. Il y a des locutions à connotation morale, avoir bonne conscience, puis, en leur âme et conscience, liberté de conscience, conscience morale. Les philosophes lui ont donné un nouveau sens avec la locution « prendre conscience ». Ainsi, la conscience est passée de la valeur morale à la valeur psychologique de réflexion. Il faut donc bien s'entendre sur le mot « conscience » qui, selon les positions, ne revêt pas les mêmes significations. Nous allons essayer maintenant d'explorer ce que l'étymologie de spiritualité. La spiritualité vient du latin spiritus, qui a donné le mot esprit, mais qui a donné aussi le mot respirer. Tous ces mots-là ont la même racine. Et la racine spirare. Toutes les civilisations ont fait le lien entre l'air, l'élément le plus subtil de la matière et l'esprit. Dans la langue française, le verbe respirer peut devenir inspirer quand l'air pénètre dans les poumons ou expirer quand il en sort. Mais quand on dit il a expiré, ça veut dire on meurt. Par contre, on peut conjuguer le verbe inspirer à la forme passive. Je suis inspiré. Mais alors une question se pose tout de suite. Qui ou quoi nous inspire? C'est une vraie question à laquelle la notion même de laïcité ne répond pas. Le diaphragme, le muscle de la respiration, ce muscle qui est au centre de notre corps, s'appelle aussi en langage médical le centre phrénique. Or, phrène en grec veut dire état d'âme, état d'esprit, état d'humeur. Par conséquent, les anciens avaient déjà repéré que ce diaphragme au cœur de notre corps était comme l'interface entre l'esprit et le soma, comme le baromètre ou le thermomètre de nos états et nos climats émotionnels. Alors, deux conceptions de cette respiration, du monde spirituel, vont naître en Occident et en Orient. Celle de la Bible, qui est celle de la tradition de l'Occident européen et puis celle aussi qui nous vient de l'Orient. En effet, la Bible nous dit que l'homme, l'Adama, le têtreux, le glébeux, est une terre inspirée par le souffle de Dieu, Ruach. Donc il est inspiré. Nous sommes là dans une forme passive. Alors que, si vous voulez, donc dans l'Orient, ce souffle, prana, ki, chi, énergie, principe vital, il s'agit de le maîtriser pour accéder à la pleine conscience. Ces perspectives différentes entraînent des anthropologies et des cosmologies différentes qui ne sont ni neutres, ni laïques. Des exercices pratiques, des manières d'être en découlent. D'autre part, les références au bouddhisme de la méditation de pleine conscience sont très différentes du bouddhisme enseigné en Asie. S'il y a des spécialistes du bouddhisme dans la salle, on sait bien que ce n'est pas du tout les mêmes perceptions, les mêmes conceptions qu'il y a. Le cadre majoritaire du bouddhisme en Occident n'a pas évolué depuis les écrits de Madame Blavatsky, dont nous parlions tout à l'heure, prêtresse, grande papesse de la théosophie. Et de Sinet aussi, qui est un spécialiste du bouddhisme, mais aussi d'ésotérisme dont vous avez parlé tout à l'heure, Sinet. Lorsque l'on parle de bouddhisme, on parle en réalité très souvent du bouddhisme ésotérique, renvoyant aux représentations du monde occultiste, typique du début, du 19e siècle et du début du 20e, plutôt qu'aux conceptions asiatiques. Ainsi, les porte-paroles du bouddhisme, Frédéric Lenoir et Mathieu Ricard, œuvrent à la persistance d'une dommageable confusion. Et là, je tire ça très récemment d'un ouvrage qui vient d'être écrit par Marion d'Absange, qui vient d'écrire un livre qui est paru très récemment, le 15 septembre, je crois, et qui est une anthropologue, qui a écrit un livre que je vous recommande particulièrement parce que nous sommes plein dans le sujet, et c'était pour moi très intéressant de voir qu'il y avait une analyse très, très, très fine et très approfondie sur la question. Ça s'appelle donc « Les dévots du bouddhisme ». Elle a vécu pendant 7 ans, elle a étudié tous ces réseaux du bouddhisme occidental. La tradition biblique et chrétienne différencie un Dieu créateur de la création. Et nous avons entendu Bernard tout à l'heure nous dire que ce principe de cette nébuleuse du New Age nous entraîne dans du monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de séparation entre la création et le créateur. C'est très important de poser ces questions-là, parce que toutes ces questions de monisme ou de croire en un Dieu créateur vont entraîner des perspectives et des pratiques différentes. Le monde créé par Dieu, donc, est sauvé en Jésus-Christ, dans le christianisme, a un commencement, un point de départ et une finalité. Alors que vous avez dit tout à l'heure que ces conceptions sont très cycliques au niveau du New Age et de ses représentations. Voilà. Donc la pleine conscience ne différencie pas le divin, l'énergie. Pour elle, tout est dans tout selon un principe de non-différenciation monistique. La pleine conscience a également des dogmes. La pleine conscience, la méditation a aussi également des dogmes, mais qu'elle ne nomme pas, mais sur lesquels reposent ses conceptions. Lorsque des moines bouddhistes ou des chrétiens mal à l'aise dans leur propre culture ou tradition font la promotion de la méditation de pleine conscience, il est alors permis de se poser quelques questions concernant la neutralité et la vertu de laïcité. Voici quelques principes de la méditation de pleine conscience. Dans un premier temps, il s'agit d'être attentif à ses sensations dans l'instant présent, comment elles apparaissent, comment elles durent ou ne durent pas, et comment elles disparaissent. Par la suite, le méditant va examiner les idées qui l'habitent, les perceptions, les habitudes mentales positives ou négatives, à leur point de départ, dans leur durée et à leur point de dissolution. Il doit rester neutre et silencieux dans cette introspection. Il accueille l'apparition et la disparition des sensations agréables, neutres ou désagréables, sans juger, sans chercher à obtenir la sensation agréable ou à rejeter la sensation désagréable. C'est ainsi que le méditant arriverait progressivement au détachement et à la libération de la matière, de la sensation, de la perception et des conditionnements mentaux. Ce détachement est typiquement nous vient de l'Orient. Il faut se détacher de toute sensation et même de tout sentiment de joie ou de tristesse comme autant d'illusions qui nous empêchent de nous libérer. C'est ainsi que l'important est que le méditant soit tout à ressentir plus qu'à penser, à expérimenter plus qu'à savoir. La pleine conscience se situe au-delà de la première forme de sagesse selon le bouddhisme, qui est la dévotion, et au-delà de la deuxième forme, qui est la logique de l'intellect ou de la raison. Donc là, nous avons foi dans un premier temps, au-delà de la raison dans un deuxième temps. Elle accéderait à la troisième forme de sagesse, qui est la vision directe de la réalité ultime en toute chose. Donc, dans son principe même, nous constatons que la méditation de pleine conscience voudrait se situer au-delà de toute foi et de toute raison. La méditation de pleine conscience, mindfulness meditation, nous ramène invariablement, et vous en avez parlé, vers quelques personnes, et notamment M. Jon Kabat-Zinn, professeur promoteur international de la méthode, mais aussi vers la méditation vipassana, d'après l'enseignement de Goenka. Ainsi que les notes, le CIPAD, ça c'est aussi un site que je vous recommande particulièrement, le CIPAD, C-I-2-P-A-D, qui est le Centre d'information et de prévention sur les psychothérapies abusives et déviantes. Donc selon le CIPAD, la méditation de pleine conscience est dérivée de la méditation vipassana, dont la pratique est connue comme pouvant engendrer des problèmes de déstabilisation mentale, ainsi que le rapporte l'association américaine International Cultic Studies Association. Pardon pour mon anglais qui est plutôt un peu breton, sartois. Monsieur Jon Kabat-Zinn est un des leaders actuels de l'Institut ésotérique Ezelin, centre historiquement lié, nous avons évoqué ça tout à l'heure, au mouvement Gurdjieff. En fait, nous sommes là au cœur des pratiques du New Age qui tentent de rapprocher l'enseignement bouddhique des expérimentations en psychologie. Ce syncrétisme, prédisant la venue d'un homme nouveau, d'un nouveau type d'homme au potentiel illimité, a engendré un grand nombre de sectes et de pratiques dites spirituelles et a attiré 350 millions d'adeptes à travers le monde. C'est une vision globalisante, voire totalisante, et finalement totalitaire, qui cherche le bonheur de l'homme sans perspective de transcendance. L'homme devient Dieu, il n'a plus besoin du Dieu créateur et sauveur de la tradition chrétienne. Les médias se sont fait amplement le relais de ces techniques de méditation. L'expansion phénoménale de la méditation de pleine conscience passe par les médias. Tous les magazines, toutes les chaînes de télévision ont consacré articles et émissions à la méditation de pleine conscience. Sur Internet, il suffit de taper « méditation de pleine conscience » ou « mindfulness » pour trouver une multitude de sites, tous à la gloire de la mindfulness ou de la méditation de pleine conscience. Il est presque impossible de trouver des sites émettant des questions ou des réserves sur cette méthode. En médecine, la méthode se propage grâce à certaines cautions médico-scientifiques qui démontreraient des effets positifs de cette méditation sur le stress, l'anxiété, la dépression. De nombreuses publications scientifiques prouveraient ces bénéfices. Mais, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, y a-t-il... Non, c'est toi, hein, Didier, qui disait ça en introduction. Y a-t-il réelle indépendance de ces recherches ? La méthode mindfulness est pratiquée à la faculté de médecine de Strasbourg, tu l'évoquais tout à l'heure, et fait l'objet d'un diplôme universitaire, un DU, médecine, méditation et neurosciences. Elle a été proposée pour la première fois à la rentrée universitaire 2012-2013. La pratique de la méditation de pleine conscience est déjà introduite dans certains hôpitaux français. Mathieu Ricard, que l'on voit très souvent sur les plateaux de télévision, moine bouddhiste depuis 1979, proche disciple du Dalai Lama et devenu son interprète, son porte-parole, Mathieu Ricard est connu pour ses nombreux écrits et ses interventions. Selon Mathieu Ricard et les promoteurs de la méditation de pleine conscience, 20 minutes de pratique quotidienne de pleine conscience contribueraient à la diminution de l'anxiété, du stress, de la tendance à la colère et à augmenter la bienveillance, ceci améliorant la vie sociale. Nous sommes exactement dans les mêmes promesses de résultats mirifiques que proposait la méditation transcendantale avec le gourou Maharishi Mahesh Yogi dont nous avons vu une photo tout à l'heure. L'empathie, ce concept cher aux rogériens et aux psychologues Rogers, devient délétère et conduirait au burn-out selon Mathieu Ricard. Mathieu Ricard lui préfère un entraînement à la bienveillance, à l'amour altruiste. En fait, c'est une forme d'indifférence à son prochain. Ces dernières années, il est devenu l'ambassadeur d'une nouvelle discipline, les sciences contemplatives, qui explore les bienfaits de la méditation et de l'entraînement de l'esprit sur l'organisme, et plus particulièrement le cerveau. Mathieu Ricard participe ainsi activement aux recherches de l'Institut Mind on Life, fondé en 1987 par le Dalai Lama, pour développer les échanges entre les sciences cognitives et le bouddhisme. Selon encore une note du CIPAD, M. Mathieu Ricard ne cultiverait-il pas ici une certaine ambiguïté? En effet, les travaux expérimentaux auxquels il se réfère, de façon précise, pour étayer l'hypothèse de la validité opératoire de la méditation de pleine conscience, sans être biaisé par des conflits d'intérêts. Tu en parlais tout à l'heure dans l'introduction. Les différents scientifiques nommés qui pilotent ces études sont eux-mêmes pratiquants des techniques de méditation, ou bien liés à des croyances, ou bien encore membres de la direction Mind on Life Institute. Il y a donc un manque d'indépendance des expérimentateurs vis-à-vis de l'objet étudié. Par exemple, M. Richard Davidson, professeur de psychologie, enseignant à l'Université de Wisconsin à Madison, membre fondateur de Mind on Life Institute, qui s'attache à explorer la relation de la science et du bouddhisme, pratique la méditation, travaille depuis plusieurs dizaines d'années avec l'un des principaux responsables du mouvement Gurdjieff aux USA et publie avec le centre Esalen, promoteur de différentes méditations. Madame Tania Singer, qui intervient auprès de l'association de méditation de Bruxelles Émergence, cette association fait la promotion des néagrammes, technique créée par Gurdjieff. Elle est également membre du conseil d'administration Mind on Life Institute. Ces proximités, amènent nécessairement à se poser certaines questions. Alors, nous avons évoqué aussi tout à l'heure la question des faux souvenirs induits et perturbations cognitives. La méditation de pleine conscience prétend avoir des effets bénéfiques sur la cognition et aurait un effet positif sur la dépression. Cependant, des études scientifiques indépendantes sont publiées concernant l'impact de la pleine conscience sur la mémoire et spécifiquement sur les distorsions de la mémoire. Alors, ce texte va être sur le site du JMP. Je ne vous donne pas toutes les références, hein, ce serait un petit peu fastidieux, des différentes analyses qui ont été faites scientifiques, mais que vous retrouverez sur le papier si vous le désirez. Ces études montrent, et là je fais une petite synthèse, hein, des études qui ont été faites, indépendamment bien entendu, des mouvements de la méditation de pleine conscience. Donc, ces études montrent que la méditation de pleine conscience augmente le taux de faux souvenirs provoqués ou induits. Elle augmente les capacités imaginatives et ouvre au paranormal. Elle provoque des aberrations cognitives, perceptives et sensorielles. Elle provoque des distorsions relationnelles et sociales. Dans certains cas, elle peut entraîner une dépersonnalisation, une aggravation de la dépression. Quant à ses effets sur le stress ou l'anxiété, aucune analyse réellement indépendante des réseaux de la méditation de pleine conscience n'en amène la preuve. La méditation de pleine conscience, lorsqu'elle est comparée au traitement de référence ou des contrôles appropriés, ne montre aucun effet supérieur à ces derniers. Donc autant manger une glace au chocolat. Il n'a pu être mis en évidence d'effets positifs dans la méditation de l'avenir. Voilà. Il n'a pu être mis en évidence d'effets positifs de la méditation de pleine conscience sur une amélioration de l'humeur, de l'attention, l'addiction à des substances comme alcool, cigarettes, drogue, etc. Voilà. Par contre, il y a une force de commercialisation de cette technique de méditation de pleine conscience qui est absolument colossale. La méditation de pleine conscience, mindfulness, s'est imposée d'un coup faisant entrer dans les écoles, les entreprises, les prisons, les organismes gouvernementaux et même l'armée américaine. C'est un article de Ron Percher et David Loy publié dans le Beyond Mindfulness dans Huffington Post. Je n'ai pas amélioré mon anglais. La révolution de pleine conscience doit offrir une panacée universelle pour régler à peu près toutes les questions de la vie quotidienne. Plusieurs ouvrages ont été publiés récemment sur le sujet. Alors là, vous avez tous les domaines. Être parent en pleine conscience. Manger en pleine conscience. Enseigner en pleine conscience. S'il y a des enseignants dans la salle, alors, une politique de la pleine conscience. C'est pareil, hein, s'il y a quelques politiciens, là, peut-être qu'ils pourraient améliorer leur performance. La thérapie de la pleine conscience. Diriger en pleine conscience pour les chefs d'entreprise. Une nation consciente, la guérison consciente, le pouvoir de l'apprentissage conscient, le cerveau conscient, la pratique de l'attention dans les périodes de crise, le chemin de l'attention vers l'autocompassion. L'engouement pour le mouvement de la pleine conscience a créé une industrie lucrative. Des consultants avisés recommandent des formations à la pleine conscience, assurant qu'elle améliore l'efficacité au travail, qu'elle réduit l'absentéisme, et qu'elle met en valeur les compétences personnelles si essentielles dans une réussite professionnelle. Certains vont même plus loin en affirmant qu'une formation à la pleine conscience peut agir comme une technologie perturbatrice qui transforme les entreprises, même les plus dysfonctionnelles, en des formes organisationnelles plus respectueuses, plus compatissantes et durables. Vous avez vu là, l'histoire de Nice. Et à chaque fois qu'il y a un événement un peu conséquent, eh bien, et puis la méditation transcendantale, avec une personne sur mille, il suffit qu'une personne pour complètement transformer l'espace de la société. Eh bien, on a un peu les mêmes argumentations ici. Le découplage de la méditation de pleine conscience de son contexte moral et religieux bouddhiste permet d'en faire un produit de consommation. Mais où mène cette pleine conscience ? Un tueur à gages, un proxénète, s'il veut y réussir, a intérêt pour être plus efficace à se trouver dans une pleine conscience de ce qu'il réalise. Un peu de provocation. D'après un texte le plus ancien de la tradition bouddhiste, le canon Pali, quelqu'un qui commet un crime prémédité et odieux peut le faire en pleine conscience. La notion de conscience morale peut y être totalement absente. D'autre part, pourrions-nous envisager la récitation méditation du chapelet comme une technique de bien-être permettant de réduire le stress ? Faudrait-il mettre des électrodes sur les têtes des pèlerins lourdes pour vanter les mérites de la dévotion mariale ? Ou vérifier la tension artérielle et le gaz du sang des moines de Solesmes chantant leur office en grégorien, ou encore vérifier les paramètres biologiques de ceux qui pratiquent le jour du Yom Kippour ou de l'Aïd El-Kébir. Nous sommes à proximité, là j'ai vu, hein, des centres, des petites. Voilà, il y a un culte catholique, un culte musulman et un culte juif. Là, ce serait pratique, hein, il suffirait de mettre des électrodes à l'entrée. Voilà. Et vendre, si le produit est plus pertinent ou performant, hein, vendre le produit comme une simple technique améliorant ses performances préalablement ciblées pour prouver scientifiquement la pertinence des bienfaits opérés par telle ou telle dévotion. Socialement, la méditation de pleine conscience, même si elle est pratiquée en entreprise, renvoie toujours l'individu à lui-même et à son bien-être personnel. Les combats collectifs de l'amélioration des conditions de travail, l'analyse des causes de détresse collective et structurelle sont totalement oubliées. La méditation de pleine conscience serait ainsi l'opium d'une juste prise de conscience collective et d'une réflexion critique sur les conditions de travail. Nous ne devons pas oublier que ce système de pensée a généré un système de caste. Le bouddhisme tibétain, notamment, a permis un système de servage particulièrement cruel. Et Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a passé beaucoup de temps en position de lotus. Et pourtant, il a continué à payer des employés des salaires de misère à ses sous-traitants, à engueuler ses subordonnés et à se garer sur les emplacements réservés aux handicapés. C'est un article du Point sur la méditation de pleine conscience du 19 mai 2016. Méditation laïque, point d'interrogation. Voici les exercices au début et à la fin de chaque journée. Ce que recommandent les méditants chevronnés, c'est de commencer et de terminer ces journées par quelques instants de pleine conscience en ouvrant et fermant les yeux le matin et le soir, et au moment de les fermer, de prêter attention à sa propre expérience de l'instant présent. Mon corps, mon souffle, le bavardage de mes pensées, le cours de mes émotions. Tout est centré sur soi. Toutes les minutieuses observations de soi. Tout doit conduire par des exercices constants, assidus et répétés à une enstase. L'enstase est une chute en soi-même et on découvre que tout est là. Je cite là Christophe André, Méditer jour après jour, qui est un ouvrage référent dans le domaine de la méditation de pleine conscience. L'enstase est une chute en soi-même et on y découvre que tout est là. Tout à coup, éruption volcanique de sérénité. C'est toujours bouleversant de sentir cet apaisement autoproduit. Apaisement autoproduit. Bouleversant de constater comment le calme en statique nous relie au monde au lieu de nous en séparer. On se laisse transformer au lieu de vouloir encore et toujours transformer ce qui nous entoure. Je vais citer encore Christophe André, expérimenter l'extension et la dissolution de soi. Et voilà la finalité de la méditation de pleine conscience. Une extension jusqu'à la dissolution de soi, là où le moi n'a plus de raison d'être, car il est en tout et tout est en lui. Nous croirons lire Alice Belay, que vous avez cité tout à l'heure, dans la prière d'Alice Belay. La pleine conscience, alors là je cite Christophe André, est une expansion de soi, on absorbe tout ce qui est autour de nous, on s'en imprègne et on le devient. Comme un cercle qui s'élargit pour tout englober. On est au centre de cet univers. Mais ce n'est pas un univers borné, toutes ses frontières sont poreuses. Dans la pleine conscience, nous éprouvons des sentiments récurrents d'abolition des frontières entre nous et l'extérieur. Sentiment de fusion de soi dans l'environnement. De diffusion de l'environnement en soi. Vous savez, il y a eu une pratique au XVIIe siècle en France avec Madame Guignot et le piétisme. Hein, et c'était aussi, on retrouve des écrits semblables dans Madame Guignot, hein, de cette dissolution de l'être dans le grand tout. Méditer la pleine conscience, c'est se connecter au monde si fortement que les distinctions entre soi et non-soi deviennent absurdes, inutiles et encombrantes. Se préparer doucement à revenir d'où on vient, comme la vague se dissoudra bientôt dans l'océan, il n'y aura plus de limites que des liens. Je conclurai en disant que la méditation de pleine conscience invite à l'acceptation sans jugement de ce qui est. Elle invite au détachement. Le monde apparent est en fait d'illusion. C'est en entrant en soi-même que l'on trouverait la libération. Sous des aspects lisses et doucereux, visant l'épanouissement total de l'homme, cette méditation de pleine conscience chloroforme la conscience telle que nous la concevons dans l'héritage de la philosophie grecque ou de la religion chrétienne, tant sur le plan personnel que collectif. Je vous remercie.